commencer, on va essayer de pas faire trop long sur ce qui est le point statutaire pour qu'on ait le temps d'échanger sur les activités. Alors, point sur les adhérents, donc on était 61 adhérents il y a un an jour pour jour lors de la dernière assemblée. On est passé à 94 adhérents, dont 10 qui doivent encore renouveler leur adhésion, ce qui fait une augmentation quand même de 54% des effectifs sur un an, ce qui est plutôt pas mal si on considère surtout les effectifs, alors non pas connus parce que personne ne les connaît, mais estimés des docteurs en sciences de la fonction publique qu'on estime entre 2500 et 3000 personnes. Alors, on n'est pas un syndicat représentatif au titre où l'entendent les instances, mais si on compare nos effectifs, nos nombres d'adhérents à la population totale qu'on peut représenter, je pense qu'on est largement aussi que peuvent l'être d'autres syndicats. Donc, juste pour faire un point rapide des représentations, il y a 6 adhérents sur Besançon, il y en a 14 à la PHM, il y en a 16 à Dijon, à la Martinique, 9 à Rennes, et puis après les plus gros sites, c'est Nancy et Nantes, et puis ensuite Limoges et Grenoble, et puis les autres CHU. Donc on est représenté dans 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dans une vingtaine de CHU. Voilà. Alors on a ouvert cette année 2 nouvelles sections. Une au CHU de la Martinique, donc avec Fabienne, Georges et puis Gilda qui en ont pris la direction et qu'on remercie. Et puis la semaine dernière, on a ouvert une nouvelle section sur le CHU de Besançon. Alors on y allait avec Gaël la semaine dernière, mardi dernier je crois. Ouais, ça doit être mardi dernier. Et on a eu la belle surprise de rencontrer une bonne vingtaine, petits 25 docteurs en sciences. Donc voilà, qui était plutôt motivé et partant, donc ce qui est visiblement sur Besançon, il y a des gros effectifs puisqu'ils ont environ 85 personnels de recherche. Alors contrairement, j'allais dire, aux autres CHU, c'est plutôt des personnels qui se situent hors biologique par rapport à la population globale. C'est plutôt des personnels qui se trouvent dans la recherche.
Qu'est-ce que t'appelles la recherche du coup?
Recherche clinique?
Oui, recherche clinique, oui. Ingénieur d'études et recherche clinique, ils ont mélangé les deux termes.
C'est surtout de la recherche clinique, en fait. C'est surtout de la recherche clinique, en fait.
Oui, surtout recherche clinique et peu dans les labos de biologie, comme on l'entend d'habitude.
Et sur les 85, t'en as combien qui sont inscrits, qui sont devenus adhérents, du coup?
Alors, pour l'instant, on en a 6. Ça date que de la semaine dernière, mais on les travaille au corps. Et puis je pense que la nouvelle présidente va les travailler au corps pour qu'ils s'inscrivent. Alors pour ce qui concerne Besançon, ils avaient déjà fait des démarches seuls vis-à-vis de la direction, qui n'avaient pas abouti à grand-chose, donc j'espère que ça va les remotiver pour refaire des choses et puis repartir sur les statuts qu'ils ont à défendre. Alors, le point important aussi de l'année dernière, ça a été l'affiliation à la CFE-CGC. Alors c'était un point important parce qu'il a permis notamment, j'allais dire, à Rennes d'installer un dialogue là où les dialogues étaient un peu coincés avec les DRH. À partir du moment où on leur envoyait un courrier en leur disant que le CNSH était affilié à la CFE-CGC, ça a débloqué un certain nombre de rouages et de points de communication. Vous pouvez Fabienne, tu peux nous confirmer ça?
Non. Toujours pas. Nous n'avons toujours pas de rendez-vous avec Madame
Demo, à Rennes.
Ah, Fabienne de Rennes.
Pardon, Fabienne.
Oui, en effet, on a reçu immédiatement une convocation avec un monsieur de la DRH pour nous mettre au courant des droits que l'on avait en tant que affilié à la CFE-CGC. Donc une salle, quelques qu'est-ce qu'on avait eu, affichage possible ou des choses comme ça. Mais ça s'arrête à ça seulement. Hein. Depuis, ça reste quand même assez peu ouvert. Mais bon, c'est toujours ça. Oui, il y a eu.
Alors, on a eu une proposition qui nous a été faite par Nathalie Makarski, la présidente de la CFE-CGC Service Public, de rencontrer Myriam El Khomri, mais bon, c'était un mois avant les élections, donc on n'a pas trouvé très intéressant de prendre contact avec une ministre qui allait potentiellement être démise de ses fonctions un mois après. On sait comment ça se passe dans les ministères, donc ça ne nous a pas paru forcément intéressant de le faire maintenant. Par contre, on va relancer les courriers et les contacts maintenant que les élections sont vraiment finies avec la composition de l'Assemblée nationale et puis du nouveau gouvernement. Il y a un point important sur lequel il faudra jouer, c'est le fait que François Omri, donc le président de la Confédération, le président national de la CFE, soit docteur en chimie. Donc docteur en chimie marié avec une médecin, donc il connaît bien la problématique qui est celle de la reconnaissance des docteurs en sciences, donc on va essayer de travailler sur ce point. On a fait un gros travail depuis le mois de novembre l'an dernier, parce que le problème que l'on a, contrairement à d'autres syndicats ou d'autres branches professionnelles, j'allais dire comme les syndicats infirmiers ou ceux qui veulent s'adresser aux ingénieurs, c'est que notre population est complètement éclatée sur des métiers différents. Bonjour.
Bonjour, c'est Debbie.
Salut Debbie. Ah bah voilà Marseille maintenant.
Ouais.
Je suis Patrice depuis un petit moment déjà.
Ah bah Patrice, tu nous avais rien dit.
Bah non, je suis discret, j'arrive en retard.
et moi je suis désolée, mais je pourrais pas rester.
Ok, pas de soucis.
Vraiment. Je peux pas. Je suis sous les. Il y a trop de boulot, j'y arrive pas.
Ça marche.
Je vous souhaite une bonne après-midi à tous.
Salut Debbie.
Au revoir.
Donc ce que je disais, c'est qu'on a énormément de mal à savoir où se situent les personnels titulaires de doctorat, puisqu'ils sont répartis sur des fonctions qui vont de technicien supérieur à ingénieur en chef de classe exceptionnelle, en passant par des fonctions d'infirmier aussi. Hein. Donc c'est relativement difficile de les connaître.
Formateur à l'ICI, l'école d'infirmier. Je parle fort, mais ça c'est le micro.
Oui, oui.
Ça n'est pas ma nature de parler fort.
Mais... Alors, c'est Philippe, ça nous avait en Dijonais, qui est formateur à l'IFSI, donc l'école de soins infirmiers.
En soins infirmiers.
En soins infirmiers.
Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication, parce qu'il n'y a pas de docteur en soins infirmiers pour l'instant.
Ah ben, sciences de la communication, ça nous intéresse beaucoup, ça.
Bien sûr.
Philippe.
Ah, mais nous, on en a des doctorats en sciences infirmières à Marseille.
Hein ?
Comment ?
On en a des doctorants en sciences infirmières à Marseille.
Quel diplôme et quelle filière universitaire? Quel UFR?
Ah ben, je ne sais pas exactement, mais j'en ai rencontré une il n'y a pas longtemps. Parce que moi aussi, je suis formateur en IFSI, mais occasionnel.
Et en fait, ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont infirmiers, doctorants, mais souvent, s'ils sont en ex-Marseille, ils sont en sciences de l'éducation.
Ah, c'est possible, oui.
La grande conférence de santé a décidé qu'il y aura une filière universitaire d'infirmiers, mais pour 2018 et après. Donc ça veut dire 2030...
D'accord.
Donc on a, pour récupérer ici, de retrouver nos collègues titulaires de doctorat, donc on a écrit à tous les CHU leur demandant de nous communiquer tout leur listing des personnels. C'est interdit de solliciter les diplômes font partie du domaine de la vie privée. Donc on ne peut pas demander quels sont les personnels titulaires de doctorat à tel ou tel établissement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est solliciter la liste intégrale du personnel. Et ça, il y a un certain nombre. Je peux bouger juste la souris pour le... Et ça, il y a un certain nombre de CHU qui nous les ont communiqués plutôt gracieusement. Il y a un certain nombre de CHU comme Rennes qui les avait envoyés à nos collègues, mais en tronquant simplement les personnels ingénieurs qui étaient recrutés sur les meilleurs statuts au niveau de la DRH. Voilà, donc on occulte un peu les données quand ça arrange. Voilà, donc on s'est basé sur un certain nombre de législations du Code des relations entre le public et l'administration. Et puis il y a deux CHU qui nous ont cassé un peu les pieds, c'est Amiens et Caen pour ne pas les citer. Donc on a fait une procédure devant la commission d'accès aux documents administratifs. Ils ont été déboutés avec, non pas obligation, parce qu'ils n'ont pas d'obligation légale, mais avec un avis favorable pour la transmission des données. Et puis le CHU de Toulouse, qui lui nous avait mis à la CADA pour avoir un avis, nous a également a eu un avis défavorable contre lui et favorable pour nous. Et puis pour l'APHM, nous avait avait adressé un courrier à la Commission nationale informatique et liberté pour savoir si effectivement on pouvait récupérer ou non ces listings. Et là aussi, ils ont été déboutés, nous ont transmis des... Donc voilà, pour l'instant, on a les listings de 21 des 32 CHU, d'environ 30% de la PHP, ce qui représente un listing d'à peu près 200 000 personnes de la fonction publique hospitalière, donc avec nom, prénom, affectation, etc. Et sur ces 200 000 personnels, on a extrait une base de données d'environ 4 500 personnes, ingénieurs, techniciens supérieurs, qui pourraient potentiellement être titulaires de doctorat. Donc c'est un peu de fourmi pour essayer de retrouver nos adhérents. Autre point de cette année, c'était on est intervenu rapidement, une dizaine de jours avant les élections présidentielles, auprès de Jérôme Calfon, à qui Thierry Mandon, le secrétaire d'État à la recherche, avait demandé un rapport sur la constitution d'un annuaire national fédéré des titulaires de doctorat avec l'attribution d'une adresse mail à vie. Donc ce qui nous avait dérangé, c'est qu'on se cachait derrière notre petit doigt avec un PhD France comme adresse mail. Donc on a expliqué à Jérôme Calfon, qui lui-même l'a expliqué au secrétaire d'État, qu'on n'était pas des PhD au sens américain. On cachait tous plus ou moins derrière notre PhD, mais que la législation nous autorisait à utiliser notre titre de docteur. Comme il voulait communiquer à la fois au national et à l'international, donc il y a eu un compromis qui a été validé, c'était deux jours avant les élections présidentielles par Thierry Mandon, avec un domaine qui sera en docteur-phd.fr. Voilà. Donc, c'est un compromis entre les deux. L'affiliation à la CFE change de sujet, nous a aussi permis de rejoindre le Conseil commun de la fonction publique, puisque le SNSA siège dans la commission égalité, mobilité, parcours professionnel, ce qui nous a permis de faire passer un certain nombre de messages quant à la reconnaissance du doctorat au niveau des grands pontes de l'administration, qui a sous tutelle les trois branches de l'administration, territoriale, hospitalière et d'État. Voilà. Et avec une reconnaissance d'Olivier Roussel, donc qui est conseiller d'État, qui a bien conscience des problèmes et des statuts précaires dans la fonction publique hospitalière, et qui ne correspondaient pas à des métiers répertoriés, je cite, à des conditions de recrutement peu claires. Voilà, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, maintenant que la période électorale est passée, on va repartir à l'attaque. C'est ce qu'on attendait un peu, parce que c'était un peu mouvant et il n'y avait pas grand intérêt d'agir avec les mêmes personnes avec lesquelles on avait discuté pendant plusieurs années, un dialogue de sourds un peu. On a fait le point des ministres qui étaient titulaires de doctorat. Alors, il y a le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui a une thèse sur les méthodes du juge constitutionnel. Alors évidemment, il y a la ministre de la Santé, mais qui a un doctorat en médecine, donc on va essayer de passer par des autres biais, surtout que la CFE nous incite plutôt à discuter avec la ministre de la Fonction publique plutôt qu'avec la ministre de la Santé.
Je trouve que ça doit être un prélude à une titularisation. L'intérêt de passer par la Fonction publique.
Oui, oui. Encore que les conditions de titularisation, c'est des conditions qui sont quand même relativement ardues pour les personnes qui ont un certain âge, parce que les collègues qui ont été titularisés, je sais qu'il y a un de nos collègues, je ne sais plus si c'est sur Montpellier ou enfin sud de France, parce que quand ils titularisent, ils vous récupèrent sur les grilles officielles de la fonction publique, mais peuvent vous récupérer au premier échelon de la grille, ce qui fait qu'ils compensent le différentiel de traitement par une indemnité. Et cette indemnité va se réduire, une prime en fait qui va se réduire en fonction de votre montée d'échelon. Et notre collègue me disait qu'il allait mettre 18 ans pour augmenter de salaire par rapport à son salaire actuel. Sachant que la différence entre les titulaires et les fonctionnaires, c'est que les contractuels, entre les titulaires et les contractuels, c'est que les contractuels cotisent au niveau de la retraite sur les primes, ce qui n'est pas le cas des fonctionnaires.
Et ça, c'est pas négociable, ce délai, ce gap?
Ça, c'est... Alors, c'est négociable, sinon...
Si la porte d'entrée pour nous, c'est la fonction publique, ça sera plus facile de le faire. La situation cas ou gras par gras ou...
Alors, ce qu'on...
T'as compris,
hein? Oui, j'ai compris. Alors, ce qu'on avait essayé de négocier avec le SMPS, qui est donc lui qui est représentatif au niveau de la fonction publique hospitalière, parce que là, justement, le ministère de la fonction publique avait intimé l'ordre à la DGOS de renégocier les grilles des ingénieurs de la fonction publique, qui étaient bien en dessous des hospitalières, oui, qui étaient bien en dessous des grilles des ingénieurs de la territoriale notamment. Alors il y a eu des négociations qui ont été menées. On a été contacté au mois de novembre dernier par Jean-Marc Novak, qui est le président chargé des ingénieurs au niveau du syndicat des managers publics de santé. Et on avait discuté, on lui avait posé deux requêtes. La première, c'était que les titulaires de doctorat soient recrutés à minima sur des grilles d'ingénieurs en chef de classe normale, puisqu'en fait, les grilles d'ingénieurs vont par deux. Vous avez les grilles d'ingénieurs hospitaliers qui vont évoluer sur les grilles d'ingénieurs principales et les ingénieurs en chef qui vont évoluer sur celles des ingénieurs en chef de classe X. Donc, on avait demandé à ce que les titulaires de doctorat soient recrutés sur les deuxièmes niveaux de grilles, c'est-à-dire d'ingénieurs en chef de classe normale, et puis qu'il y ait une reprise d'ancienneté de 3 ans au recrutement pour, au titre du doctorat. Donc ce qui a été négocié pour l'instant, alors tous les syndicats ont quasiment claqué la porte avec le ministère, ce qui a été négocié pour l'instant, et on attend la parution des décrets, c'est la reprise de 2 ans d'ancienneté au titre du doctorat pour les recrutements dans les grades d'ingénieur, et puis ben, pour les grilles, il va falloir se remettre au travail.
Ah. Et question, est-ce qu'on a songé à comparer avec les ingénieurs de recherche CNRS et INSERM? Parce que si les choses sont intéressantes chez eux, je ne sais pas, je ne connais pas les détails, je ne sais pas comment...
Au mieux pas, ça vous ferait mal.
Je ne suis pas sûr que les grilles d'ingénieurs CNRS soient aussi intéressantes.
L'ingénieur recherche, c'est très intéressant. Et au taquet, il beaucoup plus qu'un CRA. Et les primes, sans compter les prix.
L'ingénieur de recherche au CNRS,
ouais.
Il touche plus que...
Un CRA. Et pareil pour l'ITSERM, pareil pour l'INA. Parce que c'est un corps qui est vraiment à part, qui est même... Oui, je pense qu'ils m'entendent. Oui, bah, apparemment pas. Mais enfin,
vous entendez tout le monde?
Oui.
Ok.
Bon. Oui, ça coupe par intermittence.
Ah, d'accord. Je disais donc que les grilles d'ingénieurs de recherche des EPST, INRA, CNRS, INSERM et assimilés, en fait, c'était de très très belles grilles qui étaient supérieures aux celles de chargés de recherche et qu'on ne comptait pas les primes en plus. Parce qu'en plus de ça, ils ont des primes, et des primes qui sont importantes. Le problème, c'est grilles d'ingénieurs à l'hôpital. Mais même pour les fonctionnaires, ils ont même décroché par rapport à la territoriale. Pourtant, la territoriale, les trois fonctions publiques, on disait toujours que c'était toujours la moins bien payée. Or là, il y a même un décrochage par rapport à la territoriale. Ça pose un problème pour le SMPS, qui est en fait constitué d'ingénieurs et de directeurs, un peu. Il doit avoir des écoles de RES, des 3S, un petit peu un mélange de... Évidemment, eux, ils discutaient surtout pour les fonctionnaires, en fait. Hein. C'est pour les fonctionnaires qui discutaient des grilles.
Ouais.
Et même pour ça, ils se sont pas mis d'accord. Alors nous, à côté de ça, on peut...
Alors est-ce qu'on ne peut pas avoir un angle d'attaque en rappelant le souhait du gouvernement actuel de niveler les retraites et de faire disparaître les régimes particuliers, dire ben, on est tous ingénieurs...
Non mais je pense qu'ils vont faire disparaître les régimes particuliers des fonctionnaires.
J'entends bien, mais peut-être que ça peut être un angle d'attaque.
Et ils veulent faire signer à tout le monde des contrats BTP, hein.
Oui, j'ai compris.
À l'hôpital, c'est ce qu'on signe, hein. C'est pas qu'au dans le bâtiment. Hein. Le généraliser partout, le gouvernement, c'est ça qui m'inquiète.
On va pas rentrer dans les inquiétudes. j'essaie de suggérer des angles d'attaque. Et...
Non, mais tous les angles sont bons. Hein.
Voilà, donc sûr. Fonction publique, statut d'ingénieur, disparate entre l'INSERM, CNRS, l'hôpital, la territoriale. C'est pas normal. Déjà l'hôpital en intra c'est compliqué, ensuite être... il y a 20 ans qu'il est clair que c'est une fonction ou un corps indispensable à l'hôpital avec l'avènement des CIC, etc. Hein, pour vous en biologie. Donc à un moment donné, il faut décider que c'est. Voilà.
Alors il y a aussi un.
On continue à recruter. Je veux dire, à la limite, on peut imaginer qu'ils ont fait des erreurs à un moment donné. Maintenant, ils continuent à recruter des docteurs en sciences.
Tout à fait d'accord, c'est toujours notre.
pardon, c'est pas nous, alors.
Ben non, de
mon point de vue, c'était...
Alors, il y a aussi un autre angle d'attaque qu'il faut... Ouais, il y a aussi un autre angle d'attaque qu'il faudra attaquer, c'est la comparaison par rapport aux titulaires de doctorat sur les postes d'ingénieurs et les grilles des ingénieurs informatiques et du statut national des ingénieurs informaticiens qui ont été mis en place et qui sont quand même particulièrement bien lotis au niveau de la fonction publique.
Surtout en Martinique, oui.
Mais
non, en Martinique.
Ah oui, en Martinique, ils sont super bien payés, super bien lotis. Mm-hmm. Ils avaient un statut particulier, après ils ont été réintégrés dans le statut général. Et sans mentir, je crois qu'il n'y a quasiment pas pas de diplôme d'ingénieur parmi eux, tu vois. C'est des anciens techniciens, certains n'ont même pas le bac. Voilà. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes là-dessus il y a 2 ans. Mais ça n'a rien fait bouger. Moi perso, 20 ans de métier dans la boîte, je suis allé pour renégocier mon salaire. On m'a dit, mais monsieur, j'ai eu un directeur en face de moi qui m'a dit, mais monsieur, vous avez déjà un salaire de directeur, donc votre prochain passage d'échelon, oui, pourquoi pas, mais dans 5 ou 6 ans.
Ça aussi, ça fait partie des choses qui les dérangent et qu'il faut intégrer dans les négociations, c'est qu'on essaie de négocier les grilles d'ingénieurs en chef de classe exceptionnelle, et que c'est quand même parmi les échelons terminaux, il y a encore 2-3 échelons derrière pour les directeurs d'hôpitaux, les primes en plus, mais ça fait partie aussi des choses qui doivent leur gratter le poil.
Ils parlent de prix, mais ne parlent jamais des logements de fonction quand même.
Oui, non, mais ça c'est évidemment.
Ah oui.
Alors il y a aussi un autre angle d'attaque, c'est qu'avec les nouveaux députés qui ont été élus, il y a 17 députés qui sont titulaires de doctorat non médical, dont le très coloré Cédric Villani, le médaille Fields 2010. Donc je pense que ça fait partie des angles d'attaque. On a récupéré leur parcours pro. Il y a des professeurs d'université, il y a un ancien directeur d'université, il y a 17 titulaires de doctorat non médical. Donc ça fait partie des gens qu'on va attaquer à partir de la semaine prochaine pour leur demander des rendez-vous, voire même éventuellement provoquer une réunion globale avec eux pour leur présenter, comme on a assez de matériel sous le coude avec ce qui a été généré à Rennes comme rapport, avec les rapports qu'on a fait ici sur Dijon, plus les rapports qu'on avait remis en 2012 à Édouard Couty pour Marisol Touraine. Donc il y a assez de matériel pour leur démontrer les choses et essayer de les faire nous suivre. Pour l'instant, j'ai pas encore la répartition dans les commissions. Il y a un directeur d'hôpital qui est député. Et puis, alors il y a pas mal d'ingénieurs. Il y a 14 ingénieurs qui ont été élus à l'Assemblée nationale. Et puis évidemment, il y a 35 médecins biologistes, pharmaciens ou pharmaciens biologistes privés qui sont encore députés, plus un chirurgien dentiste. Donc voilà.
Emmanuel, juste, tu avais commencé par faire le point des ministres titulaires d'un doctorat hors médecine. Tu en avais parlé, tu as parlé de deux, là, l'éducation et la santé. Il y en a d'autres?
Alors, il y a Frédéric Vidal qui est ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, évidemment. Et puis, il y a Françoise Nyssen qui est ministre de la Culture, qui avait commencé un doctorat en biologie moléculaire à l'Université libre de Bruxelles. Donc voilà, bon, ça fait 3+1, on va dire, de ministres qui sont titulaires de doctorat et qu'il faudra rencontrer. Alors, on a aussi un autre angle d'attaque possible par un directeur de cabinet de je ne sais plus quel ministère. Donc voilà, on a plusieurs portes d'entrée qu'on va évidemment, on va aller forcer et taper à toutes ces portes. Voilà, moi j'ai fini le tour du rapport moral, on va dire, sachant qu'on est quand même très... très vigilant par rapport au personnel député médical. Alors peut-être aussi avec une carte à jouer en local, puisqu'on a un médecin de Dijon, Didier Martin, qui a été élu député. Voilà, bon, peut-être.
Oui,
il est médecin, mais bon, il est de Dijon, donc je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà.
Bon, pour l'instant, les médecins, ils nous aident pas trop.
Plusieurs conseillers sont des PUPH, hein, évidemment. Madame Buzyn, qui est la ministre de Santé, qui est oncologue. Son mari, Monsieur Lévy, on le connaît bien. C'était l'ancien conseiller Fioraso en sciences. Il est maintenant directeur général de l'INSERM. Donc ça reste toujours un petit peu, on est toujours un petit peu dans l'entre-soi. Or, elle aussi, hein, je ne sais pas, mais tous les conseillers sont des PUPH, sauf un économiste, je crois, et c'est tout. Hein. Donc là, je pense que ce sera difficile, comme d'habitude. Hein, si on...
Après, il a dit qu'il n'allait pas se faire bouffer par les conseillers, donc on va voir. Qui J'ai président, maintenant.
Ouais. Donc voilà, on va remettre tous les fers au feu par rapport à ces députés-là, par rapport à la reconnaissance des métiers, et puis évidemment le problème des par-delà la reconnaissance des métiers, c'est les grilles indiciaires qui y sont rattachées, puisqu'on a rencontré la directrice générale du CHU de Besançon, qui est une personne plutôt fort aimable. Qui nous a dit oui, mais le problème c'est que derrière ces grilles-là, vous n'avez pas de. Enfin, derrière ces métiers-là, ingénieur d'études, ingénieur de recherche, vous n'avez pas de grille indiciaire. Donc voilà. Des remarques, des compléments sur le rapport moral ?
Non.
Non, c'est bon.
Moi, juste une petite remarque, mon avis personnel, effectivement, qu'il faut attaquer.
Là, on n'entend rien du tout.
Non, là, j'entends pas bien, moi non plus.
On n'entend plus rien, Aline. Fort.
Enfin, moi, c'est mon point de vue. Hein. Il faut repartir au front, c'est plutôt sur les grilles indiciaires par rapport aux grilles, enfin, aux fiches métiers, parce que la titularisation, moi, j'y crois plus du tout. Je pense que de toute façon, c'est fini la titularisation et que, quel que soit le gouvernement, maintenant, on n'aura plus. Donc, si on commence par ça, ça va être merci la porte. On va lui, hein.
Bon, ça, on en reparlera en fin de réunion nationale sur Dijon. Ce qu'on voit là. Voilà.
Moi, j'aimerais rajouter aussi qu'on parle aussi, peut-être que tu voulais en parler, du DCAP contractuel.
Il
n'y
a pas de bonnes nouvelles là-dessus.
Pourquoi ?
La Fort de France, il n'y a pas de CAP contractuel. Hein.
Alors, les CAP contractuels ont été décidés par une loi de 2015 et doivent être mises en place justement le 3 et 4 décembre 2018 lors des élections. D'où l'importance de créer des sections locales et d'où l'importance de présenter des listes à ces élections pour que ce soit les contractuels comme nous qui soient représentés et pas, on va dire, des personnels contractuels de la fonction publique. Comment est-ce qu'on peut dire ça
potentiellement titularisation. Voilà.
La seule différence avec ces personnels, et on pense aux ASH, on pense à des personnels infirmiers, etc., c'est que ces personnels-là qui sont potentiellement titularisables parce qu'ils ont un métier, parce qu'ils ont des grilles, etc., s'occuperont absolument pas de nous. Et ça, je l'ai vu dans les discussions qu'on a eues au Conseil commun de la fonction publique. Hein. Comme disait Gaël, ils se préoccupent du sort des titulaires et pas de ceux des contractuels. La différence, c'est si on se présente et si on est élu, on saura s'occuper du statut de ces personnels-là, alors que l'inverse est totalement faux. Parce que ces personnels-là, potentiellement titularisables, ne connaîtront pas nos statuts et nous défendront absolument pas. Donc d'où l'importance de...
Je ne vais pas citer un syndicat ici, un responsable syndical m'a dit un jour, il y a longtemps, vous êtes des privilégiés, donc de quoi vous vous plaignez ?
C'est sûr que par rapport à des ASH, oui, on est des privilégiés, mais...
Oui. En même temps, je suis pas sûr qu'ils disent que pareil un médecin ou un pharmacien ou...
Ben voilà, donc il y aura un gros travail et c'est pour ça qu'on active énormément sur la récupération des listings. C'est vraiment un très très gros travail depuis le mois de novembre parce que c'est vraiment épuisant de rappeler 10 fois, et quand je dis 10 fois, c'est pas un euphémisme, la secrétaire d'un directeur général ou d'un DRH qui nous répond « Ah bon, vous nous avez écrit ? Ah mais je me souviens pas, ben, si vous avez reçu le courrier recommandé à tel jour, vous avez réécrit... » répondu, reçu le mail à tel jour, j'ai appelé 4 fois pour cette chose-là. Ah oui, ben je regarde puis je vous tiens au courant. Donc c'est vraiment épuisant, c'est un bordel monstre dans les administrations. Alors soit c'est un bordel ou soit ils font exprès pour essayer de faire freiner les choses, mais je suis un peu têtu, donc voilà.
Cette date...
Pour savoir, vous avez reçu ceux de Limoges ou pas ?
Comment ?
L'image a été courtois ou pas ?
Alors, je sais plus, je vais te dire ça tout de suite, je sais pas où j'ai mis ça, j'ai mis la liste de ceux qui m'ont répondu. Je suis pas sûr que Limoges.
Ah, il faut voir
si, Limoges, c'est bon les amis.
Il faut voir que dans les listes, pas d'Imanu, mais vous en avez sûrement parlé. On a parfois reçu la liste de tous les employés du CHU. Je crois que c'est Nantes ou Clermont-Ferrand. En format papier, en taille de caractère 6.
Non,
4 ou 4,5. Après, c'est débrouillez-vous, hein, évidemment.
Vous prenez une page A4 en format paysage et vous aviez 125 noms par demi-page. Donc merci le logiciel de reconnaissance optique parce qu'ils pensent nous embêter avec ça. Mais,
voilà, donc on est.
Donc on s'est équipé d'un logiciel de reconnaissance optique et voilà, ça me permet de. Sachant que les adresses e-mail ne sont pas des. Enfin, font partie des choses confidentielles. Donc ça veut dire que à partir de tous les listings qu'on a récupérés, il a fallu recalculer entre guillemets les adresses e-mail potentielles des personnes, sachant qu'il n'y a pas un CHU qui a la même structure de mail.
Alors,
certains c'est le nom point le prénom ou point l'initiale du prénom ou il y a des tirets, il n'y a pas de tirets. Donc c'est vraiment un gros travail, c'est assez épuisant de discuter avec des gens qui vous prennent pour des abrutis.
Pour revenir, je voulais revenir Manu, moi, pour revenir sur ces élections professionnelles, c'est évident pour nous, pour exister, comme tous les syndicats, hein, évidemment, nous sommes la CFE-CGC, de présenter des listes pour les élections. Il y a très forte chance qu'il faudra peut-être obéir à la parité. Un garçon, une fille, il faudra probablement obéir à la parité pour ces listes-là. Et de toute façon, on tiendra au courant ces listes et qu'est-ce qu'il faut faire en fait.
Alors, sachant que, et pour être tout à fait clair, et les administrateurs le savent, on est en train de. Parce que la CFE-CGC est représentée par deux syndicats au niveau de la fonction publique, qui est acteur santé pour les personnels non titulaires de doctorat, et puis le SNSH pour les autres. Donc il y a deux syndicats officiels pour présenter la CFE-CGC au niveau de l'hôpital public. Donc on est en train de passer un protocole d'accord avec Acteurs Santé. On en avait déjà passé un l'an dernier pour ce qui était de la répartition des adhérents parmi nous. Donc on est en train d'amender un protocole d'accord justement en vue des élections et de la répartition éventuelle du crédit temps que l'on aura entre les deux syndicats en cas de, enfin, dans le cadre des élections pour représenter nos adhérents et
nos intérêts
surtout.
Moi j'ai une question, c'est une liste donc qui va se faire par CHU ou c'est une liste nationale?
Non, c'est par CHU.
Par CHU.
Alors il y a deux choses. Il y a tout ce qui est établissement. Alors, sauf si ça change évidemment avec ce qu'est en train de faire le gouvernement, je ne sais pas. Il y a deux choses. Donc il y a les établissements de moins de 50 personnes. Donc là aussi, il va falloir qu'on récupère auprès des ARS toute la liste des établissements de moins de 50 personnes pour présenter ce qu'on appelle des listes sur sigle, c'est-à-dire que la CFE-CGC n'a pas d'adhérents dans ces établissements-là. Mais on dépose une liste et les gens votent pour une liste, il n'y a pas de nom sur la liste. Et pour les établissements de plus de 50 personnes, comme les CHU, on va déposer, établissement par établissement, des listes de personnes qui souhaitent se présenter, donc des listes communes entre Acteurs Santé et le SNSH. Donc on est en train de défendre une position qui est de dire qu'à partir du moment où le SNSH aura été implanté le premier dans un établissement, sous réserve que les personnes évidemment du SNSH souhaitent figurer sur ces listes, ce soit le SNSH qui soit porteur de cette liste et inversement dans les autres établissements, mais que de toute façon il n'est pas question que des personnes du SNSH qui bossent toute l'année pour faire vivre leur section, pour aller tailler la bavette avec la direction et défendre nos intérêts, se retrouvent en milieu de liste ou en fin de liste en position non éligible si potentiellement ils peuvent l'être.
Parce que les listes, il y aura 32 personnes hein, sur les listes, donc à l'évidence, ouais. On ne pourra pas fournir les 32 noms, même pas la moitié, mais disons que...
32 personnes, c'est pour un établissement comme Dijon avec 5000 personnes, hein. C'était les quotas des dernières élections. Donc c'est clair que sur ces listes, il faudra aussi mettre des personnels infirmiers, il faudra aussi mettre
un mélange des brancardiers. Avec nos collègues d'Acteurs Santé.
Mais il n'est pas question que si les gens du SNSH veulent s'investir, que s'ils sont déjà investis,
qu'ils se retrouvent 32e.
Ils se retrouvent en milieu de peloton, en position non élue, juste pour faire bonne figure. Donc ça, c'est pas, ça fait partie des choses qui ne sont pas négociables.
Et pour l'instant, au niveau poids des deux syndicats, on est à part égale entre le CNSH et Acteurs Santé. Donc voilà.
Et les dates, il y a une date limite, j'imagine, pour déposer les listes.
Ça vous tiendra au courant. De toute façon, ce sera normalement les élections ont lieu les 2, 3 ou 4 décembre 2018. Les listes devront être déposées, j'imagine, un mois ou un mois et demi avant. Ce qui veut dire aussi qu'il va falloir rédiger des professions de foi communes avec Acteurs Santé, donc qui englobe nos préoccupations, leurs préoccupations, donc ça va être un gros travail sur l'année prochaine. C'est pour ça qu'il faut absolument motiver l'ouverture de sections du SNSH. Deux fois moins de, je sais plus, 35 médecins, pharmaciens. Alors ce qui m'inquiète, c'est surtout les pharmaciens biologistes et puis le... Alors, il y a un pharmacien biologiste et un médecin biologiste. On sait aussi.
Et deux.
Non, un.
Ouais.
On passe à l'approbation du rapport moral. Est-ce qu'il y a des voix contre, qui s'abstient?
Pour moi, ça va.
Voilà, donc j'approuve. On a coupé tout le micro, donc... On passe rapidement sur la compta, parce que Anne, notre trésorière, s'excuse, elle est en train de déménager sa fille, donc elle n'a elle pas pu être là. La comptabilité, vous l'avez reçue, donc on a comme compte des résultats, on a un total entre les achats, les fournitures administratives, les documents techniques, la publicité. Alors on a un gros morceau de... Les deux principaux postes de dépenses sont les postes de publicité, avec tout ce qui est mailing notamment. Et puis, alors on n'a plus depuis qu'on est CFECGC, donc alors, on imprimait pas mal de choses à Dijon. On avait réussi à avoir une imprimante couleur plus des cartouches d'encre. Nous ont gentiment été supprimés l'année dernière par notre cher DRH au motif qu'on n'était pas représentatif. Maintenant qu'on est CFECGC, donc les frais sont pris en charge sur le compte de la CFECGC. Notamment, on peut accéder à un photocopieur couleur A3 recto verso qui a été mis en place pour les syndicats, donc on imprime un certain nombre de matériel dessus. Mais on a des gros postes sur la communication, notamment par rapport au mailing. Alors ça fait depuis... parce que quand on diffuse des lettres d'information, on diffuse à plus de 6500 personnes. Donc ça commence à faire des gros quotas. On a un petit souci pour l'instant qu'on essaye de contourner, c'est-à-dire qu'on se fait mettre pas mal en spam, avant l'entrée même dans les CHU. Donc on a des problèmes de pénétration dans les CHU. Donc on a racheté deux autres noms de domaine qui étaient docteur.science, docteur-science.fr et .com. Donc ce qui nous permet de contourner un peu le blocage qu'on a eu sur SNSH Info. Donc tout ça, ça coûte un peu d'argent. On a des frais de déplacement, parce qu'à chaque fois qu'on va au comité de direction de la CFE à Paris par exemple, ça n'est pas pris en charge. On a fait deux déplacements à Besançon, donc qui imputent aussi ça. Donc, ce qui fait qu'on a des charges de 1768 € et des produits en cotisation. Alors, sur 2016, ça devait paraître particulièrement élevé, qui sont à 4323,88 €, mais simplement parce que en 2016, on faisait des appels de cotisation à la date d'échéance ou à la date anniversaire de la cotisation de notre adhérent. Et puis ça devenait trop dur à gérer, donc on est passé aux appels de cotisation au 1er janvier. Et on a donné la possibilité aux personnes qui le souhaitaient de payer leur adhésion de 2017 avant le 31 décembre 2016, qui leur permettait de déduire en 2017 leur cotisation directement, parce que sinon vous êtes décalé d'un an pour les déductions des impôts. Voilà donc ce qui fait que pour l'instant on a un solde sur le compte qui est à 5652 €. Sachant que sur cette somme-là, et je vais y revenir tout à l'heure, il va falloir débourser les cotisations qu'on va devoir payer à la CFE-CGC. Alors, avec une bonne nouvelle, c'est que, et ça a été voté la semaine dernière en comité de direction par la CFE-CGC à Paris, normalement, et c'est le courrier que j'avais joint à la convocation, j'avais fait un courrier à la trésorière fédérale de la CFE pour lui dire qu'on avait des cotisations qui étaient de 50 euros,
avec une cotisation perçue de 48,05 € pour les personnes qui réglaient par PayPal, puisque PayPal nous prend à peu près 4% de frais. Donc on devait reverser pour les primo-adhérents, c'est-à-dire à la CFE-CGC, non pas de nos adhérents à nous, mais les primo-adhérents CFE, on devait reverser 48 €. Donc ils nous laissaient 5 centimes par adhérent. Et à partir de l'année prochaine, sur les adhérents qui ne sont plus primo, 73 €. Donc avec des cotisations à 50 €, ça nous fait un déficit de 23 € par personne. Donc la CFE nous a voté un aménagement des cotisations en nous demandant jusqu'en fin 2019, on ne paiera que la part confédérale, c'est-à-dire que sur les 48 € de primo, je crois qu'on va payer environ 25 €, j'attends le chiffre exact, et sur les 73, pour les autres adhérents, on ne devrait payer qu'une 50aine d'euros. Donc charge à nous de mettre une trésorerie de côté et malheureusement d'augmenter nos cotisations pour dans les années à venir pour au moins être à l'équilibre entre ce que nous on va percevoir et ce qu'on va devoir leur reverser. Sachant qu'on va essayer de, comme ils vont nous appeler les cotisations, on les paiera au mois de décembre. Donc on va essayer cette année pour avoir un roulement de cotisations plus important, de faire comme on a fait en fin d'année dernière, c'est-à-dire d'appeler les cotisations 2018 avant le 31 décembre pour finalement avoir une année de roulement d'anticipation. Alors sachant également qu'on avait demandé des subventions à la CFE-CGC Service Public, donc de tête on avait demandé je crois 5 000 € à la Fédération, plus 2 500 € à la Préfond. Alors pour la Préfond, il s'agit simplement de subventions qui sont attribuées. Vous faites une réunion comme aujourd'hui, on aurait pu demander à la Préfond de venir nous distribuer deux, trois dépliants et on touche des subventions là-dessus. Donc finalement, on aura 1 000 € de la part de la Fédération des services publics, ben simplement parce que le plus gros syndicat des services publics, c'est la police, c'est Alliance. Et Alliance, ils apportent beaucoup d'argent, mais ils en récupèrent beaucoup aussi. Donc finalement, pour les petits syndicats comme nous, ils nous donnent 2-3 miettes. On verra ce qu'on va pouvoir faire avec ces miettes pour se développer. On travaillera avec des morceaux de ficelle, comme on a toujours fait. Plus on aura 500 € avec la Préfond. Bon, je suis en train de négocier en parallèle avec une autre mutuelle des accords de partenariat. Ça, je vous en parlerai quand ce sera validé, signé. Mais
si c'est validé un jour.
Si c'est validé, moi, j'ai pas trop mauvais espoir par rapport à ça. Ça devrait être mis en place et on devrait rencontrer les responsables de la mutuelle au milieu de deuxième semestre 2017. Voilà. Des questions par rapport aux finances ? Non ?
Non,
c'est bon.
On vote le quitus à la trésorière pour ce qui est de la compta ?
Oui.
Sachant qu'il faudra aussi peut-être désigner pour l'année prochaine. Alors, point important, c'est que justement, dans le cadre du processus électoral, et pour éviter de se faire tailler des croupières par les autres syndicats, tous les comptes du SNSH depuis 2011 ont été déposés auprès de la DIRECT, qui est la Direction de la Répression des Fraudes, je ne sais plus quoi, qui se charge de... Parce qu'il y a plusieurs modalités de dépôt des comptes, soit vous les déposez sur votre site internet, au-delà d'une certaine somme, vous les déposez à la DIRECT, et ensuite vous avez au-delà de, je crois que c'est 20 et quelques 1 000 € de budget, vous devez prendre un commissaire aux comptes. Prendre un commissaire aux comptes.
Non, c'est à partir de 125 000.
Comment ?
C'est à partir de 125 000 €.
Le commissaire aux comptes.
Par contre, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour l'année prochaine, c'est qu'on désigne deux personnes au moins pour vérifier les comptes au niveau du syndicat, qui est deux personnes, deux bénévoles à qui on enverrait les photocopies des factures et des dépenses. Et puis, charge à vous de faire une vérification des comptes pour que tout soit d'équerre pour tout le monde. Voilà. Qui est contre le... L'approbation des comptes.
C'est OK pour Rennes.
C'est pour Rennes.
OK. OK pour la Martinique.
Limoges.
OK.
Bon, c'est OK pour Clermont aussi.
OK pour Clermont, super. On va passer à un point qui n'est pas OK pour tout le monde.
Ah.
Alors, les projets 2017, ça, je vous en ai parlé. Dans le rapport moral, j'ai fait en fait rapport moral plus... plus projet 2017. Alors je viens de vous expliquer que effectivement par rapport aux cotisations qu'on a, par rapport à ce que nous prend PayPal sur les cotisations et par rapport à notre développement et par rapport à ce qu'on va devoir payer dans quelques années à la CFE-CGC, c'est-à-dire à partir de 2019. Alors il n'y a pas 36 000 possibilités. Soit on laisse nos cotisations à 50 euros et ça ne va pas le faire dans 3 ans. Soit on augmente nos cotisations progressivement pour pouvoir payer ce qu'on a payé à la CFE-CGC, ou l'autre solution, c'est qu'on quitte la CFE-CGC et qu'on continue à travailler comme on le faisait avant, notamment pour arriver, je ne sais pas bien où. Alors les cotisations, on ne se les met pas dans la poche, on ne les met pas dans les frais somptuaires. Les seuls frais somptuaires qu'on ait fait, c'est d'acheter un ordinateur à 300 euros pour pouvoir bosser, puisque les CHU ne connaissent pas et ne nous équipent pas de matériel. Et c'est assez difficile de travailler avec des bouts de ficelle. Assez difficile aussi de se développer si on veut ouvrir des sections et si on veut être représenté l'année prochaine, en 2018, dans les commissions administratives paritaires. Alors, titulaire, puisqu'il y a certains de nos collègues, et c'est notamment le cas de Jenny sur Besançon, la présidente de la section, qui elle est stagiaire, donc qui sera titularisée vraisemblablement sur les années à venir, mais sur les CAP contractuels. Voilà, donc maintenant je vous laisse réagir, puisqu'il y a une ou deux personnes qui sont abstenues sur l'augmentation de la cotisation à 65 euros. J'ai une de nos collègues de Lyon qui m'a écrit « Je ne renverrai pas ma procuration car je suis contre l'augmentation des 65 euros ». J'ai eu, je crois, deux autres votes défavorables sur les... J'en ai eu deux. Et sachant que les autres ne se sont pas prononcés. Trois. Non, c'est le même. Voilà.
Je vais prendre la parole, c'est Delphine la reine. Je pense que c'est malgré les difficultés qu'on peut rencontrer actuellement par rapport à l'organisation de la CFE-CGC et le fait qu'on n'a pas toutes les informations qu'on aimerait avoir ou toutes les ressources qu'on voudrait avoir, ça nous a quand même à Rennes ouvert les portes. Comme tu as dit Emmanuel, ça nous a permis en particulier d'avoir un rendez-vous avec la DRH et voilà, d'avoir une écoute et un début de travail avec eux, même si pour le moment on n'a plus de nouvelles. Mais bon, disons que ça nous donne un statut quand même au sein de l'hôpital qui n'est pas négligeable.
Ah. Oui, moi je voulais intervenir aussi sur ce sujet-là. Je pense que peut-être que...
Qui est-ce qui parle ?
C'est Renaud à Limoges.
Ok. Ah.
Je pensais que... Bon, je comprends la nécessité de remonter les tarifs des cotisations, même si c'est jamais agréable. C'est plus, non pas l'augmentation en elle-même, mais l'échelonnement de l'augmentation qui est un peu, je trouve, raide, même si on parle de sommes qui ne sont pas non plus extraordinaires. Mais voilà, je pense que peut-être que les quelques propositions, enfin du moins les quelques réponses négatives qui ont été apportées peuvent venir de là, notamment, parce que c'est mine de rien un doublement de la cotisation sur un espace de 2 ans, doublement d'une faible somme, je conviens, mais un doublement quand même. Donc est-ce que il n'y a pas une action à avoir là-dessus? En effet, si on bouge pas, on est dans 3 ans, c'est la banqueroute. Après, si on étage un peu plus cette augmentation dans le temps, est-ce que c'est peut-être pas une solution? Je ne sais pas.
Ben, tu sais que par rapport à ce que je viens de dire, il faut qu'en fin 2019, c'est-à-dire que nos cotisations 2020 soient au minimum supérieures à 73 euros. C'est ce que va nous prendre la CFE-CGC. Donc si nos cotisations en 2020 sont à 73 euros, ça veut dire qu'on a zéro de budget pour fonctionner. Hein.
Oui, non, mais je comprends, c'est d'où l'intérêt d'avoir une trésorerie initiale pour absorber ces choses-là, mais voilà, c'est mon ressenti. je suis conscient de la nécessité d'augmenter les cotisations pour être à l'équilibre, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, et même au-delà de l'équilibre, parce qu'il y a forcément des frais de fonctionnement, mais voilà, dans la période où on est en train d'essayer de recruter des adhérents, et c'est très difficile dans certains endroits, je suppose que c'est même un peu partout pareil. Tu parlais qu'on avait quelques adhérents sur Limoges. Honnêtement, je ne sais pas si ça fait partie des gens qui sont en attente de règlement de la cotisation de l'année, mais ça m'étonnerait qu'à moitié, quoi.
Bah, écoute, sur Limoges, il y avait une bonne dynamique qui avait été installée, et puis j'ai pas. Vous êtes trois, vous étiez à cinq ou six, là vous êtes plus de trois.
Mais oui, mais parce que les gens qui étaient à l'initiative, ont changé de statut, ont plus ou moins obtenu ce qu'ils souhaitaient, et c'est vrai que c'est difficile pour des gens qui ont obtenu ce qu'ils souhaitaient de continuer un engagement comme ça, même si c'est dommage parce que des fois...
Qu'est-ce qu'ils ont obtenu?
Oh, c'est des gens qui sont passés sur des derniers échelons d'ingénieur principal ou des choses comme ça. Donc arriver à ce niveau-là... ils n'ont plus grand-chose à attendre.
Moi, je suis plutôt bien placé pour... plutôt bien placé, oui, en plus c'est moi qui le dis. Donc, je pense que je ne fais pas partie de ceux qui sont les moins bien rémunérés parmi les docteurs en sciences. Mais quand c'est ce que je disais, c'est ce qu'on disait avec Gaël l'autre jour à Besançon. Quand je vois qu'il y a des collègues titulaires de doctorat qui gagnent 1587 euros net par mois sur des postes de technicien supérieur hospitalier, quand on sait les efforts que les uns et les autres on a fait pour avoir un doctorat, par-delà ce que je peux toucher ou le statut que je peux avoir, il y a aussi la défense de l'intérêt commun et la défense d'un idéal. Voilà, si je partais sur la même réflexion en me disant « moi, finalement, j'ai à peu près ce que je veux », je sais là où je vais finir dans ma carrière à l'hôpital. Je suis pas sur une grille qui soit parmi les plus mauvaises, donc les autres se démerdent.
Je suis d'accord avec ça, mais
non, je dis pas que c'est
malheureusement
pour Renaud. Hein.
Qui peut arriver. Hein.
Mais non, mais je sais puisque
il y a même moins que 1500. Hein, ce qui nous, avec notre joli guide de gestion que vous avez obtenu, nous ils arrivent et les quel que soit le diplôme, c'est le démarrage. Il est au sixième échelon de la grille de technicien supérieur. Donc du coup, c'est même aux alentours de 1400 euros.
Ouais.
Donc voilà, et ils sont tous, je dis bien tous, ils sont tous embauchés comme ça maintenant.
Oui, mais alors je prends l'exemple aussi pour aller dans ton sens du CHU de Grenoble, où à Grenoble, il y avait, comme à Dijon, historiquement, il y avait des attachés scientifiques dans les pôles de biologie. Alors il y a les vieux attachés scientifiques qui ont 20 ou 25 ans de carrière comme à Dijon. Et puis il y a les nouveaux attachés scientifiques qui ont moins d'une quinzaine d'années. Et les deux, enfin les anciens ont réussi à faire valoir un certain nombre de droits qui sont totalement différents et notamment par rapport aux grilles indiciaires, sont totalement différents de ceux qu'ont les nouveaux. Et donc il y a deux clans. Les anciens disent non, finalement nous on a obtenu ce qu'on veut, donc on fait rien. Et puis, les nouveaux laissent pas trop les oreilles pour pas que leur progression soit perturbée.
Oui, ben oui. Je pense que c'est partout, c'est tous les CHU. Hein.
Oui, je sais. Je sais.
Ou du moins ceux qui sont déficitaires.
Alors pour en revenir sur les problèmes des cotisations, je voudrais simplement redire deux choses. C'est que oui, ça fait une forte augmentation, ça je suis bien d'accord. Et il y aura encore, il ne faut pas se leurrer, une autre augmentation l'année prochaine et l'année d'après. On en déduit quand même 66% des impôts. Vous avez tous dû recevoir les déductions de CERFA pour l'année dernière, donc on a dit 66% des impôts.
Sauf les gens qui sont en frais réels.
Ah bah oui, peut-être, oui.
Alors quand c'est le cas, par exemple, j'ai discuté avec les gens autour de moi, c'est des choses aussi qui me parlent. Quand on est dans des petites villes où les gens habitent un peu loin de la ville, les gens sont au frais réel, donc c'est pas un critère qui fait venir les gens, du moins pas chez nous.
Bon, faut savoir aussi que les syndicats et même Acteurs Santé, nos collègues d'Acteurs Santé, c'est 90 euros par an la cotisation, qui pensent à la relever.
C'est l'objectif
de
À terme, dans les 3 ans, c'est quel objectif?
D'avoir au moins 10 ou 15 euros de marge par rapport à ce qu'on a versé à la CFE.
C'est-à-dire 90 euros.
Je pense que ce sera l'objectif.
Ceci étant, avec la CFE-CGC, moi je dis, mais juste en mon nom, hein, S'il faut donner beaucoup d'argent, le diable et son train, et qu'on n'a rien en échange, hein, une main lave l'autre. Hein. Si on n'a rien en échange, on va en discuter. Je pense qu'on discutera, on leur dira à Paris, ça va pas. Parce que on n'en a pas pour notre argent, et on pourra aussi voir, pointer du doigt, les déficits de gestion. Hein. Il y en a quelques-uns aussi. Ouais. Hein.
Alors c'est clair que Paris, c'est... Que si les choses, que si les choses n'avancent pas, que si les choses, on verra notre positionnement.
Notre positionnement, hein.
Sachant quand même que, et je prends l'exemple des autres syndicats, que j'appelle les syndicats généralistes, où ils vous réclament, je ne sais plus si c'est la CGT ou FO, c'est 1% de votre salaire brut. Donc vous gagnez 2000 euros brut par an, vous payez 200 euros de cotise.
Et voilà. En plus, si on pense au conseil de l'ordre, voilà. Nous, on n'a pratiquement pas d'association qui nous regroupe. Il n'y a que le SNSH aujourd'hui à ma connaissance. Sincèrement, rapporté à la cotisation conseil de l'ordre de...
Il y a l'ANDES aussi, plus généralement.
Il y a l'ANDES aussi, ouais, je ne sais plus combien c'est, mais...
Voilà, donc oui.
C'est 30 euros par an l'ANDES.
35, je crois, oui.
Enfin, c'est pas du tout la même action, mais...
C'est pas la même action. Voilà.
C'est plus un caractère associatif que syndical.
Oui,
c'est une association. Je pense que là, franchement, la CFE-CGC nous a apporté du poids et on le perçoit tous les jours. C'est vraiment pas un luxe.
La différence de la CFE avec les autres syndicats, c'est que la CFE, c'est une confédération de syndicats. C'est-à-dire que chaque syndicat a sa voix et peut parler de ce qu'il préoccupe. Voilà. Vous êtes à la CGT, vous êtes à la CFDT, les informations elles viennent d'en haut et vous les appliquez sur le terrain. Donc ils défendront ce qu'ils ont toujours défendu, c'est-à-dire les personnels titulaires, et là je pense qu'on pourra faire une croix sur... Mais c'est clair qu'on n'est pas marié à vie. Si vous vous rappelez les modifications de statut qu'on a fait... qu'on a fait quand on a adhéré à la CFE-CGC, on a mis dans les statuts de mémoire la possibilité de quitter la Confédération quand bon nous semblerait, ou d'aller nous affilier à un autre syndicat. Bon, ce n'est pas un mariage à vie. Hein. Nous, on est en train de bosser beaucoup pour faire que la CFE puisse s'implanter dans la fonction publique hospitalière. On pensait qu'elle était plus que ce qu'elle l'est à présent. Voilà, on est en train de travailler beaucoup, donc on veut aussi avoir des retours et sur les 1000 euros de subventions qu'ils nous ont donné pour clairement pour cette année, les 1000 euros, les 1500 euros qu'on va toucher, ça va éponger grosso modo les 1500 euros qu'on va devoir verser de cotisations pour nos adhérents. Sachant que la CFE nous a proposé aussi en off. Tant qu'ils n'ont pas mis en place, parce que normalement vous êtes adhérent, ils sont en train de modifier les services d'aide, notamment vous avez un appui juridictionnel, d'assurance, etc. Donc ils sont en train de remodifier, de renégocier leur contrat. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Donc par rapport à ça, c'est clair qu'ils nous ont proposé pour l'année prochaine de déclarer par exemple uniquement les membres, enfin les administrateurs des sections, les administrateurs nationaux. Comme actifs, c'est-à-dire qu'ils paieraient 73 euros, et déclarer les autres comme primo-adhérents, continuer à déclarer les autres comme primo-adhérents. Voilà, ce qui va permettre de jongler avec la trésorerie pendant les 3 ans à venir, et ce qui nous permettra aussi de voir notre positionnement et les avancées qu'on va pouvoir obtenir. Parce que c'est clair que si dans les 3 ans qui viennent, on n'a pas obtenu d'avancées avec les portes qui peuvent s'ouvrir avec eux au niveau des ministères, du dialogue qu'ils pourraient avoir pour que des grilles indiciaires soient reconnues, on verra ce qu'on continue à faire.
Ouais, et puis ce serait dommage de rater le coche des élections de 2018.
C'est pour ça que j'en parlais, oui, c'est vraiment important.
Je veux dire, là, c'est quasi binaire. Hein, les... En 2018, on arrive un peu à
avoir des gens
à mettre le pied après leur paye.
Ouais. Et là, on sera représentatif au niveau de la fonction publique hospitalière.
Pour moi, c'est l'enjeu.
C'est
vraiment l'enjeu.
Et Renaud, si tu as envie de motiver les troupes sur Limoges...
Pas qu'à Dijon, mais pas...
Moi, je te dis fonce. Hein.
Ouais. C'est ce que j'essaye de faire, mais c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué, les gens sont... Je dirais pas que les gens sont flippés, mais sont tenus un peu... on a beaucoup de gens qui sont sur des
au final des contrats précaires et des CDD, sachant que lui il les mène bien à peu près tous jusqu'aux 6 ans hein, avant de pouvoir passer en CDI.
Oui.
Et il y en a beaucoup qui disent oui c'est génial, c'est intéressant, mais quand je serai en CDI quoi. Et c'est super dur, vraiment. Là, je me bats contre du vent. Même avec les 3-4 personnes qui sont là depuis le début, quand je leur ai parlé d'essayer de justement monter la section sur Limoges, j'ai pas de temps, je peux pas, voilà. Donc,
non mais compliqué. Le pas de temps, personne n'a de temps, donc ça c'est.
C'est ça, personne n'a le temps.
Le plus simple, mais bon.
Nous, on a aussi une expérience un peu proche, c'est-à-dire qu'on a rencontré deux personnes qui étaient vraiment intéressées par le syndicat et qui finalement s'inscrivent pas du tout n'adhèrent pas du tout et on ne comprend pas quoi. Une fois et puis une deuxième fois et puis c'est tout.
Comme je dis souvent, si on peut avoir des avancées sans payer, pourquoi pas
hein. C'est le cas à Dijon. Hein,
c'est le cas à Dijon. Hein. Moi, je prends l'exemple de quelqu'un à qui on a fait toucher une prime de labo qui va encore la toucher le mois prochain. Et qui est toujours pas adhérente au SNSH, donc ça finit par me saouler.
Non mais il y a des gens, voilà, ils estiment que du moment où il y a des gens qui font les choses, c'est pas leur participation, parce que ça serait qu'une partition financière, c'est pas leur participation qui va faire quelque chose, si ça doit se faire, ça se fera sans eux, mais ils profiteront des choses à la fin.
Exactement.
On pourra rien y changer à ça. Hein.
C'est pour ça qu'on est là où nous sommes, parce que quand on regarde les syndicats d'internes, ou les syndicats professionnels de médecins et de pharmaciens, c'est les phalanges grecques, hein, les mecs qui sont tous en train, ils payent déjà des cotisations qui sont énormes, de grosses cotisations pour ces syndicats professionnels qui se mobilisent très très vite, hein, très rapidement et très efficacement. Donc faut le comprendre, hein, notre organisation, il faut qu'on s'organise hein, pour obtenir quelque chose, hein, parce que je pense que...
Mais j'allais dire, Renaud, que si t'es partant, rien ne t'empêche d'ouvrir la section tout seul,
oui.
comme a fait Jenny à Besançon. Pour l'instant, il n'y a que la présidente, elle va constituer autour d'elle sa section avec des collègues. Rien ne t'empêche qu'on ouvre une section si tu as envie, je ne suis pas en train de te forcer le bras, hein, de t'entendre le bras, mais... Une fois qu'on est là, la direction suit le coucou, mais maintenant vous discutez avec nous.
Et puis, il faut ouvrir la section seule, c'est pour ouvrir une coquille vide, est-ce que ça a un intérêt réel? Il faut que ça soit moteur.
Tu vas pas ouvrir une coquille vide, si la coquille est là, les gens vont arriver.
Premièrement, et deuxièmement, il faut... Faut voir la représentativité des autres syndicats, faut voir que nos problèmes à nous, tous les autres syndicats les ont, ils les ont même plus parce qu'on est finalement plus représentatif de nos catégories que les autres syndicats. Et puis tout ça, ce sont des élections qui sont au niveau local. Donc il peut aussi y avoir plusieurs syndicats et d'autres syndicats, il faut avoir l'oreille à l'écoute, qui eux aussi seront peut-être trop petits pour présenter une liste, mais qui vont s'associer. Ça risque d'arriver.
Sur Dijon, la DRH nous avait proposé de nous associer à l'UNSA à l'époque, hein, par exemple.
Ça risque d'arriver parce que certains syndicats sont pas assez représentatifs, ils le savent, donc il faut des associations. Et ça va sûrement se passer comme ça. Les seuls syndicats qui peuvent se payer le luxe de ne pas avoir d'association avec d'autres syndicats, c'est la CFDT et la CGT. CGT-FO généralement. C'est les deux. Il y a d'autres syndicats et eux ne peuvent pas se payer le luxe de présenter des listes tout seuls. Donc à moi, ce que je vois, c'est que nous, par exemple, acteurs santé au sein de la CFE-CGC, mais il y aura, il peut y avoir dans les autres hôpitaux aussi des associations avec d'autres syndicats. Donc tout ça, c'est assez
important. Parce que là, sur Limoges, vous êtes trois, Renaud, si vous voulez commencer.
Mais je leur en ai parlé, mais... Voilà le résultat. Mais vous n'êtes pas confronté à ça, parce que je sais que nous, parmi justement les collègues docteurs en sciences qui sont motivés par l'action syndicale, ceux qui sont motivés sont déjà intégrés dans le système syndical à travers d'autres syndicats et intégrés depuis quelques années. Ils sont dans leur système, donc ça aurait été les gens moteurs, mais ils sont déjà impliqués dans d'autres syndicats. Je me vois mal à leur dire, quittez votre syndicat, vous avez... bosser pendant quelques temps déjà.
Pas incompatible.
C'est pas incompatible.
On laisse la parole à Malik.
Moi, je suis adhérent FECGC et SNSH et je paye deux cotisations et ça ne pose aucun souci. Moi, je suis adhérent CFDT,
ne crachez pas dessus. Je suis adhérent CFDT depuis 25 ans, je paye 374 euros de cotisation.
Mm-hmm.
En plus, c'est-à-dire qu'il faut le voir le SNSH comme un esprit de corps aussi, je pense.
Oui.
Et c'est inévitable du fait de l'installation des docteurs en sciences durablement dans l'activité hospitalière. Donc à un moment donné, il faudrait qu'on bouge. Alors, on comprend que c'est dur quand même. Si c'est... Non, mais je sais.
Non, c'est dur.
De lui remonter le moral et puis de lui dire que ça va faire, Renaud. Ciao, cours, Renaud.
Non, j'essaye.
Alors, viendra. C'est où les Limoges? Limoges, oui. Non, on ira pas.
Puis juste juste pour...
Voilà, par contre, la Martinique veut qu'on vienne pour leur... on vient.
Juste pour prendre la parole aussi à ce sujet, c'est Patrice à Marseille, là. Il y a beaucoup de personnes, effectivement, chez nous, qui sont aussi bi-syndiqués, c'est-à-dire un syndicat politique et un syndicat et le SNSH, parce que, historiquement, les personnes qui ont commencé à lutter pour obtenir, pour revaloriser un peu nos situations, c'était une intersyndicale, CFDT, FO, CNI, CGT, et ça pose aucun problème, hein. C'est même plutôt bien d'ailleurs, parce qu'en fait il y a l'aspect politique qui nous permet d'être représentés, de discuter avec les représentants syndicaux légaux de l'institution, et il y a l'aspect non politique de métier qui fait corps, comme quelqu'un l'a dit, là je sais pas qui. En fait, il faut plutôt vendre le SNSH comme ça, je pense, comme un espèce d'ordre des docteurs en sciences de la fonction publique hospitalière.
Là-bas, c'est un syndicat professionnel, hein, de toute façon.
Ah oui, tout à fait. Et moi, je pense que c'est très bien comme positionnement, ça, d'afficher, on essaye de se constituer en corps national des scientifiques à l'hôpital.
Alors, on avait discuté justement quand j'étais venu à Marseille, quand on s'était vu, Patrice, c'était en 2014, 15.
C'était à la fin de l'année dernière, il me semble, non?
Non, c'était l'année d'avant, je pense.
Ah oui? Oula, oui, le temps.
J'avais discuté justement, le SNSH avait participé au congrès de Landes, et on avait évoqué avec le président de l'époque de Landes, dont le nom m'échappe, mais de toute façon il change tous les ans, donc c'est pas un souci, la possibilité justement d'un ordre des docteurs, comme il y avait l'ordre des infirmiers.
Eh oui.
Mais là, si on crée un ordre des docteurs, ce ne sera pas 60 euros de cotisation. Hein.
En même temps, après, moi, je pense, enfin, je me suis pas exprimé sur ce sujet, mais je l'avais déjà dit en réunion de petit comité. Mais quand on veut que les choses bougent, à un certain moment, 50 euros, c'est ridicule, hein. Je veux dire, personne ici,
Pour qualité-prix est assez bon pour l'instant, hein.
Alors... Bah, quand même 100 euros par an, ça fait 10 euros par mois, quoi. Qui ne peut pas sortir 10 euros par mois? Enfin, je sais pas.
Je comprends aussi les personnes qui disent « moi je veux bien cotiser », mais on voit que rien n'avance sur le terrain avec nos statuts.
Bah, c'est faux justement, puisqu'il y a une fédération maintenant de sections, il y a des sections nouvelles qui ouvrent, il y a de plus en plus de personnes qui sont syndiquées dans cette structure, et donc au contraire, ça bouge énormément, je trouve.
Très donc, positif. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être un peu plus de communication, mais est-ce que ces personnes, elles lisent les fiches, tu sais que tu fais, les flash infos?
Ça, j'aimerais bien que tu me dises oui comme réponse.
Bah oui, j'espère aussi.
Vous avez reçu celle d'hier sur la nouvelle version de la newsletter?
Ah non, moi j'ai pas eu.
T'as pas eu?
Oui, d'ailleurs, le site est en maintenance, c'est ça? Quand on clique sur les liens.
Ah, le site est en maintenance.
Oui,
maintenant il est rétabli.
Ah d'accord, parce que j'ai testé et ce que je voulais voir la fin, parce qu'on n'avait pas accès à la fin de chaque article, et du coup ça nous renvoyait vers le site en maintenance.
Oui, mais ça c'est
un joli pigeon
qui est en place automatiquement depuis le blog et qui devrait s'envoyer hebdomadairement quand il y a de nouveaux articles. Alors peut-être que la fréquence est un peu trop élevée, je vais la changer, mais c'est soit hebdomadaire soit mensuel. Donc parce que j'ai fait les envois sur... Comme on est de plus en plus bloqué en spam, j'ai fait les envois pour ceux dont j'avais les mails privés sur les mails privés, plus... Mais sur Clermont.
Oui, ben moi je reçois systématiquement tout en double.
D'accord.
Pareil.
Parce que j'envoie...
Je reçois en double aussi.
Et l'idée d'une section sur Clermont, c'est envisageable, c'est utopique, c'est...
Pour le moment, c'est à l'état... Enfin, donc vous m'aviez donné les coordonnées d'une personne que j'ai contactée et qui m'a jamais répondu, que je ne connais pas. Donc voilà, après c'est vrai que j'ai pas, comme tout le monde, hein, mais j'ai pas eu le temps de m'occuper. Je connais quelques personnes qui sont comme moi, qui ont un doctorat. Nous, on est surtout axé recherche clinique, hein, pas en biologie. Et donc je sais qu'il y a une personne qui serait éventuellement intéressée, mais on n'a pas pris le temps d'en discuter plus que ça. Voilà, donc c'est pas, enfin ça peut être envisageable, mais moi je partirais pas à l'aventure toute seule par contre, hein. Ça c'est clair. Hein.
Non, mais par contre, si, si sur Clermont et sur, sur Grenoble vous voulez essayer de partir à l'aventure, comme on a les listings des ingénieurs, ce qu'on peut faire, c'est vous passer ces listings des ingénieurs et que vous essayez de prospecter sur place.
Oui, bah ça peut s'envisager, ouais, tout à fait.
Voir ceux qui seraient partants. Hein.
Ouais. Je suis preneur à Limoges de ça aussi, mais ne serait-ce que pour je peux te faire un prêt-tri, Emmanuel, sur ceux que
ouais.
Je commence par en connaître pas mal. Je peux aussi te faire un prêt-tri sur ce que je sais être docteur et je sais ne pas l'être.
Eh ben je prends. Et je t'envoie donc, les aussi. Ouais. Je vais envoyer à Clermont et à Limoges.
Ok, merci.
Ouais.
Il y a Nancy aussi qu'il faut que je remotive parce qu'ils sont 5. Nantes, on est en attente, mais on va toucher du bois. On espère que d'ici le mois de septembre, il y a une section qui devrait s'ouvrir. Donc il y a vraiment une dynamique qui est engagée. Et un grand merci à ceux qui animent les sections parce que je sais que c'est un sacerdoce ou c'est de la foi à l'état pur.
On n'a pas le choix.
Ça motive pas, ça.
Ouais, bah, ça dépend dans quel sens on y voit, quoi.
Ouais, non, c'est ça. C'est, oui, ça dépend dans quel sens on y voit.
Oh, ça donne une meilleure compréhension du système, quand même. Moi, j'ai trouvé, à titre personnel, on comprend un peu plus les choses et comment ça fonctionne. Ou comment ça ne fonctionne pas.
On vote pour l'augmentation de la cotisation, demande Malik ou pas?
Ah oui,
oui, oui.
Yes.
Okay. Ok
pour la Martinique, unanimité.
Oui, Fabienne.
Moi, ok de mon côté.
Ok. Anne. Anne pour la cotisation.
Ah. Je suis peut-être plus là. Si, si, mais j'ai pas entendu. Excuse-moi, j'ai pas entendu. C'était quoi la question?
Pour l'augmentation de la cotisation.
Oui, on avait discuté de ça il y a quelques semaines. Comme on te l'a dit, on est favorable parce que c'est pas le coût tellement qui nous importe. C'est surtout le retour de la CFE-CGC qui compte. J'espère que effectivement les acteurs sont donc acteurs santé va faire en sorte qu'il y ait quand même un passage des informations, parce que sur Rennes ça, la communication n'était pas encore passée entre les deux, mais je pense qu'ici on est prêt à payer le prix à condition qu'on sente un petit peu de qu'on se sente épaulé quoi dans nos actions et voilà, donc ça
sera le message. Et aussi c'est que vous mettiez en place je pense à Marseille, à Rennes et puis Martinique peut-être pas pour l'instant, mais déjà une adresse mail officielle au niveau de l'établissement SNSH-CFECGC comme ça a été fait à Rennes et à Dijon. Et puis qu'il y ait une adresse mail éventuellement quand il y a les deux sections acteurs santé et SNSH, une adresse mail générique cfecgc@chu, etc. Ce qui permettrait de diffuser l'info à un seul endroit, l'info qui doit aller à la fois à la CFE, au SNSH et à acteurs santé.
On est en train de travailler là-dessus en fait, oui. Okay.
Sur Dijon, on en a parlé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Parce qu'effectivement, il y a des choses qui concernent que le SNSH et que l'acteur santé n'a pas besoin de connaître et aussi inversement. Mais une adresse institutionnelle, ça permettrait justement de commune, ça permettrait d'avoir de l'info, de maintenir au niveau de l'info.
Et juste pour ajouter, on souhaiterait sur Rennes pouvoir accéder à une formation qui serait délivrée par la CFECGC. Notamment pour se préparer aux futures élections, parce que bon, nous on connaît rien dans le monde du syndicat, donc on a vraiment besoin d'être informé, de savoir comment ça va se passer pour être au plus près finalement des bons résultats, quoi. Sinon on va rien faire de bon et je crois que la CFE-CGC c'est à elle d'organiser ça et de prendre en charge même financièrement une...
On va passer un week-end à Dijon et puis on s'organise une formation à Dijon.
Non, mais de toute façon, il y a normalement Gabi qui doit venir 25, 26, 27 septembre. Je ne sais plus quelle date je t'avais communiqué à Rennes.
Moi, je pense que c'est même au-delà de ça, réunir toutes les sections au moins une fois dans l'année, déjà pour qu'on puisse se connaître et savoir les actions qu'on mène localement. mais également pour prendre les bonnes directions par rapport au national, quoi. Je perds plus de cohésion au sein du SNSH, si tu veux.
Oui, je suis hyper favorable à ça. La seule question, c'est de savoir comment on le fait et comment on prend en charge les frais de déplacement. Parce que
il y a les frais de déplacement. C'est l'évidence, c'est à Paris, à la CFE-CGT.
De toute façon, il faudra que ça se fasse à Paris.
À Paris, dans le 8e arrondissement.
Un billet aller-retour Dijon-Paris, c'est 134 euros.
Je sais bien le
coût. Paris, c'est minimum 400 euros.
Oh non, j'ai fait un Paris-Marseille quand je suis venu voir en première classe pour 90 euros, aller-retour.
90 euros
90 euros, monsieur. Alors, essayez pas de m'escroquer, attention. Hein.
Bravo.
Nous, on peut être... Nous, c'est, allez, en moyenne, on va mettre en année, c'est
100 euros. Pour voir qui paye.
C'est 700 euros l'aller-retour. Mais nous, on a vachement besoin de ça parce qu'en fait, dans le contexte local, il n'y a pas de CFE-CGC.
Voilà.
Les syndicats à côté, c'est des syndicats hyper politisés, pour qui on est des privilégiés.
Ah oui. Comment se mâche.
C'est pour ça qu'il faut se bouger pour les élections de 2018, parce que sinon on sent
pas privilégié, on rien. Parce que les autres ingénieurs, en fait, les autres ingénieurs qui sont à l'hôpital, c'est dans les services support biomédical, génie civil et ainsi de suite, sur lesquels il y a une promotion en interne, et on apparaît comme des concurrents, en fait, sur les grilles, sur les promotions, enfin, on est perçu comme ça, en tout cas. Donc, ils sont pour certains affiliés, ça je sais, au syndicat des ingénieurs de France, hospitalier de France, à l'IHF.
Ouais.
Et ils se sont servis de cette affiliation contre nous il y a quelques années. Donc, voilà.
Ah oui.
Les titulaires de doctorat ou les ingénieurs?
Non, des ingénieurs tout court. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, j'ai dû raconter l'histoire, il y a une quinzaine d'années, ils avaient envisagé la possibilité de faire un concours pour recruter les ingénieurs titulaires d'un doctorat.
Ouais.
Ça devait être en 2001 ou 2002. Et quand les gens, en particulier du biomédical et ainsi de suite, qui étaient non diplômés, mais chefs de service, ingénieurs en classe exceptionnelle, 7e échelon, on voit, il faut dire le genre, ils ont fait postuler les copains de l'IHF pour bloquer le concours, en fait.
Ouais.
Ah ouais.
Donc le concours n'a jamais bien qu'affiché au journal officiel, il n'a jamais été organisé.
Eh ben moi je propose qu'on fasse une assemblée générale à la Martinique. Et qu'on aille occuper le terrain.
venez parler à la DRH, on aimerait bien aussi.
Voilà, un sitting devant la DRH, si vous voulez.
Fabienne, en Martinique, est-ce que vous avez des nouvelles des demandes de listing qu'on a fait à Madame Frou? Parce qu'elle ne me répond pas. Hein. Bon.
Alors, rien du tout, mais nous-mêmes, nous n'avons toujours pas eu de rendez-vous avec la direction. Et on a déposé, je crois, 2 courriers, et plus le courrier d'Emmanuel. On n'a aucune réponse, on est inexistant, donc on continue à les harceler, on fait des courriers et on les dépose.
Le DG, c'est toujours monsieur, comment il s'appelait, Étienne ?
Nicolas Étienne.
Ouais.
C'est toujours lui ?
Oui, pour l'instant, c'est toujours lui.
Bon, je vais faire un petit courrier de relance pour les listings. Monsieur, lui, vous avez bien répondu vite sur la section.
Ah bon, ah bah, très bien, nous on
n'a
aucun retour.
Est-ce que c'est lui?
J'ai son accusé de réception quasiment le lendemain de la constitution de la section. Je suis en réunion, je t'en prie.
Ah d'accord, un accusé, ah bah, très bien, c'est bien. Mais Madame Frou, rien du tout.
Bon, ah. Madame Frou, c'est plus, oui. Donc on va les relancer pour ça et puis en disant qu'ils veulent bien vous rencontrer.
Oui, très bien.
Ah bon, on aura peut-être une réponse à la fin de l'année. Le temps moyen de réponse, c'est 6 mois.
Mais bon...
À condition de connaître les secrétaires.
Marie-Solène, c'était...
Oui, mais ça, c'est la partie de Georges, hein, je précise.
Très bien.
Il y a d'autres. Non, mais c'est... Non, sur... J'ai envoyé un mail ce week-end à la section locale, justement, de la Martinique, la CFE, pour... parce qu'on avait oublié de les informer de notre constitution. Et parce que je suis en train de... Mais maintenant que je sais que Philippe a un doctorat en communication, je vais l'embaucher.
Oui, oui, très bien.
65 euros, c'est bon. on va essayer de relancer l'information. J'ai envoyé la newsletter hier à les unions départementales locales de la CFE pour leur dire coucou, on est là. Il faut absolument qu'on communique, qu'on leur dise que... Parce qu'il y a un autre syndicat, bon, on va dire les choses clairement, qui est le... Alors, on a commis une grosse boulette, parce que normalement, on devait être six sections. Alors, j'avais annoncé la création d'une sixième section, qui était une section, une deuxième section à Marseille. Sauf qu'on n'avait pas capté que l'hôpital dans lequel se trouvait Déby, c'était un hôpital privé. Donc, j'ai fait le courrier habituel d'ouverture de section à l'hôpital. Et je me suis pris à recommander en tombée, plus une tombée nationale, par le président de la CFE-CGC Santé Sociale, en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un hôpital privé qui ne dépend pas de la fonction publique, blablabla. » Donc on a fait marche arrière sur les Catimini. Donc finalement, on n'a que 5 sections, et puis on a refermé la section de Marseille bis, si vite qu'on l'avait ouverte.
Ah oui.
Voilà.
Ça arrive.
Donc Patrice, tu restes le seul et unique.
C'est normal, je suis le meilleur.
Vous avez d'autres questions, d'autres points à voir, sinon on va vous libérer.
Si j'avais un petit point, mais ça revient surtout, Renaud, sur ce qui avait été dit au tout départ quand vous parliez sur les titularisations. Oui, je saute du coq à l'âne un peu, mais j'ai pas voulu couper tout à l'heure. Entre la différence pour les titularisations et les contractualisations chez les anciens, chez les jeunes, et notamment sur les histoires de primes. Est-ce que vous avez quelque part ce souci-là, ou votre direction vous oppose le fait que les primes chez les contractuels, on peut se les mettre sur l'oreille, et qu'ils n'ont absolument aucune possibilité de leur part, en gros, que ce n'est pas possible d'affecter les primes aux contractuels?
C'est totalement faux, non. C'est totalement faux.
C'est bien ce que j'en suis convaincu, mais... qu'est-ce que je peux leur opposer à ça?
Alors, un arrêté du Conseil d'État, peut-être? Un avis du Conseil d'État?
C'est une bonne chose. C'est une bonne chose.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait du message que j'ai reçu tout à l'heure? Avis du Conseil d'État, voilà. C'est Marseille, là, qui parle.
D'accord.
Avis du Conseil d'État du 20 août 2013, du 12 août 2013. Je peux le faire passer par mail à tout le monde. Hein.
Oui, bien.
Ça dit que les règles relatives à la rémunération des fonctionnaires ne fait pas obstacle à ce que la PHM décide du versement d'une indemnité aux agents non titulaires.
Donc, d'accord.
Voilà.
Donc,
Mais ça, il n'y a que certaines...
Bah, écoute, là, je vais partir après, je vais passer chez mes parents, et puis ben, normalement, il faut que je sois vers les 19h à la maison pour aller faire du cheval.
Il y a quelqu'un qui parle...
Et je pense que c'est Fabienne en Martinique.
Qui nous fait profiter de sa vie, là, c'est ça?
Ouais, on va sur 30, quoi. Enfin, pour être à 19h.
Ah oui, d'accord. Bon, ben, tranquille.
Alors, est-ce que je peux poser...
Oui.
C'est la Martinique. Est-ce que je peux poser une question? C'est un débat très, très subtil, parce que, en fait, moi, si je prends certains d'entre nous ici, on des contrats comme ça, je ne sais pas s'il en est pour vous. Moi, par exemple, j'ai une somme globale. Il n'y a pas détaillé la composante 40%. Nous, on a 40% en plus de vie chère, 40% de prime de technicité et le salaire indiciaire de base. D'accord. Donc il y a une somme qui est portée en tant que contractuelle.
Mmh.
Là où elle est vice, c'est que sur la feuille de paye, c'est décomposé. Et là où c'est encore plus vicieux, c'est que sur les cotisations retraite, les calculs ne se font, pour la part retraite et RCANTEC, que sur la base du traitement indiciaire, non pas sur le salaire réellement perçu. Et donc... En étant un petit peu tordu juridiquement, on pourrait à la limite porter plainte contre l'hôpital pour des contrats fallacieux.
Celle qui parle, a priori, moi je m'étais renseignée, la prime que reçoivent les contractuels.
Allô?
Oui.
On n'entend plus rien en Martinique.
Nulle part, j'entends.
On a perdu la personne qui parlait, mais on ne sait pas qui c'était.
C'est Fabienne à Rennes.
Ah.
À Rennes, on s'était renseigné, et en fait, pour un contractuel, peu importe la prime...
On ne saura jamais la suite.
On n'aura jamais la famille.
C'est un attentat. C'est un
attentat. Les RH, encore.
Non, mais c'est incroyable. Oui, en fait, donc Marseille, en attendant, je refais un peu, je vous redis un peu la situation parce que je l'ai déjà exprimé en petit comité aussi, mais du coup, nous, on avait saisi le Conseil d'État à propos de ces histoires de primes et tout ça parce que, effectivement, à un certain moment, il y avait eu des contrats qui avaient été faits avec une somme globale, puis il y avait eu des contrats qui avaient été adossés sur une grille avec un échelon, un point d'indice et tout ça. L'IGAS et la Cour des comptes ont tapé sur le dos de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille en disant, vu que c'est des contractuels, vous avez le droit de les rémunérer comme vous voulez, mais vous devez obligatoirement les adosser à une grille existante et à des échelons existants. Et donc, ils se sont fait taper sur les doigts pour tous les contrats qui sortaient de ce cadre-là. Alors, ils ont contourné le problème en mettant les gens qui voulaient, par exemple, directement à l'échelon 6 ou 7, mais en les mettant bien sur un échelon d'une grille existante et que ça soit porté dans le contrat. Par contre...
Dans le contrat.
Oui, pardon.
Ouais, dans le contrat, il y a marqué en référence à l'échelon temps de tel indice et de telle grille.
Voilà.
Mais tu n'as pas précisé le taux de la prime de technicité, ainsi de suite.
Et alors, de ce point de vue-là, en fait, c'est le combat aussi qu'on mène depuis 3 ans pour tous les ingénieurs et pour tous les contractuels. On a réussi enfin à cadrer justement avec cet avis du Conseil d'État qui a donné lieu à une directive du ministère des Affaires sociales et de la Santé générale pour toute la fonction publique. Il dit qu'il n'y a pas d'opposition à ce que les contractuels aient une part variable plutôt que des primes en fait. Apparemment, il faut appeler ça une part variable. Et du coup, à l'image de ce qui se fait par exemple depuis très longtemps pour les informaticiens, nous avons réussi à négocier avec notre direction que tous les contractuels bénéficient de la mention d'une part variable dans le contrat. Sauf que depuis que ça a été acté, c'est pas encore fait parce qu'ils sont très très longs à mettre tout ça en œuvre, évidemment, vu qu'il faut verser des sous supplémentaires. Mais bon, voilà.
La notion que j'avais par rapport à ça et par rapport à ce que la discussion qu'on avait eue avec Jean-Marc Novak du SMPS, c'est que les contractuels ne peuvent pas toucher de primes, enfin, sauf certaines, genre les primes de tabou, les primes d'encadrement. Mais si les contractuels dans un CHU touchaient une prime, tous les contractuels devaient la toucher.
Mais oui.
Alors ce qu'ont fait les CHU, c'est qu'ils ont fait disparaître la prime de certaines personnes pour ne pas la verser à d'autres. Ils ont réintégré cette prime, enfin le montant de la prime, sous forme d'augmentation d'échelon. Ce qui fait que les personnes ne touchent plus de prime, en fait.
Oui, mais ça, c'est une arnaque. On
compte que la prime de technicité, certains CHU la touchent, dans d'autres, c'est il n'y a pas de prime de technicité. Il y a, voilà, c'est.
Et pour les contractuels, hein, toute prime est sujette à cotisation, hein, théoriquement.
Mais ça, on peut saisir la ministre de la fonction publique par rapport à cette prime des contractuels. Hein, on a une réponse officielle, hein.
Pour les contractuels. Donc, ce qui veut dire que normalement tu devrais cotiser sur ta
prime. Normalement tu devrais cotiser sur tes primes, oui.
Contrairement aux fonctionnaires. Aux fonctionnaires.
En tout cas, ce qui est sûr chez nous, c'est que la prime de technicité qu'on demande justement depuis pas mal de temps,